Ça va? Alors, vous prenez cette soudia, nous n'aurons pas le temps de faire comme hier soir, c'est-à-dire de relire plusieurs fois lentement entre vos pratiques, mais simplement on isolera un certain nombre de formules qu'on étudiera pour elle-même, et puis je vous indiquerai, mais ne me laissez pas faire trop de digressions, je vous indiquerai les problèmes annexes qui se posent à propos de chaque formule, si vous voulez, mais simplement en passant. Alors donc, c'est cette page-là. Cette page-là. C'est-à-dire, vous avez au milieu de la page la même appel brachot. Comme ceci à la fin de la page précédente. Alors, vous allez peut-être pouvoir disposer encore d'un appel. Si quelqu'un va aller au bureau. Attendez, qui est désigné à volontaire. Tu veux aller. Si tu vas aller au bureau, tu demandes à Rousseau qu'il est là-bas, dans la salle, dans le bureau de notre seigneur, ça nous donnera l'air. Tu me l'appelles. C'est une belle fête, hein, la neige. Voilà, et puis alors, vous me permettrez de parler assis parce que les anges en sont la seule. Alors attendez, j'essaie de me faire rapidement vous décaler un peu comme ça. Bien, alors ce que nous allons avoir, c'est l'étude d'une soudia de Gemara sur une Mishnah qui se trouve dans la Haggadah de Pessah. Ceux qui ont la Haggadah, je vais tout de suite vous indiquer où vous avez cette Mishnah. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Hare Ani Keben Shivim Shana, Velo Zachiti Shetamer Yetziat Mitzrayim Baleot. Alors vous avez ça à... Vous avez Halach Ma'ania d'abord. Quelqu'un a une agada que je ne parle pas plus loin. Okay. Oui. Vous avez d'abord la Mishnah de Halach Ma'ania, la première. Okay. Ensuite, vous avez Manishtana, vous passez. Vous avez Avadim, vous passez aussi. Ma'ase de Rabbi Eliezer. Et ensuite, vous arrivez à Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Okay. Bon. Alors, nous allons voir ici une controverse entre les Hachamim dans la Gemara elle-même, à propos de cette Mishnah, sur le fait de savoir. L'importance de la sortie d'Égypte, qui nous accompagne comme source de notre histoire depuis l'origine de la sortie d'Égypte jusqu'à la fin de tous les temps d'exil. Donc, ce que nous appellerons le Havi, le Mot à Mashiach, pour nous faire arriver jusqu'au temps du Mashiach, si le souvenir de la sortie d'Égypte, en ce temps de la fin des autres exils jusqu'au dernier exil, aura encore la même importance liturgique et rituelle qu'avant que nous arrivions au temps de Yemot à Mashiach. Est-ce que c'est clair ? Donc le premier thème, et qui se trouve d'ailleurs étudié par le Maharal en particulier dans les premiers chapitres de Gemara Tachem, c'est d'abord l'importance de la sortie d'Égypte comme source de notre référence liturgique et historique. Zecher Yitziat Mitzrayim, cette expression-là, c'est une des expressions clés de toute la tradition, de toute la liturgie. Nous commençons à exister comme tel beaucoup plus au temps de la sortie d'Égypte avec Moïse, qu'avec le commencement réel qui est Abraham, dont nous avons déjà étudié quelques thèmes depuis dimanche. Pourquoi ? Plusieurs raisons. Que j'en voudrais vraiment très rapidement. Est-ce que certains d'entre vous étaient là peut-être hier soir au cours de Michel Prince ? Il y avait là-bas dans le fond de la salle, je crois que c'est la fille du rabbin Vini, qui a posé une question extrêmement juste et intelligente d'ailleurs, que le Maharal pose. Je ne sais pas si elle l'a lu dans Maharal, en tout cas je crois que Maharal n'a pas lu chez elle. Mais c'est la question suivante. Si déjà, je dis surtout pour ceux qui étaient là ce soir, si déjà, bien que Israël, prêt à recevoir la Torah, il a fallu, pour des raisons que nous étudierons encore avec Michel, l'imposer dans tous les cas, alors pourquoi attendre 2000 ans, depuis Adam jusqu'à temps la sortie de vie, un peu plus que 2000 ans d'ailleurs, pourquoi ne pas l'imposer tout de suite dès le commencement de l'histoire humaine ? Maharal pose la question de cette manière. Pourquoi la Torah n'a pas été donnée déjà au temps du premier homme ? Première réponse, c'est que je disais très brièvement, c'est qu'il faut Maharal va l'expliquer, il faut que se développe toute une première étape de l'histoire de l'humanité pour qu'en fin de compte apparaisse Israël, qui lui, à titre de l'humanité entière, est prêt à recevoir cette Torah. Mais alors, deuxième question du Maharal, pourquoi ne pas la donner déjà à Abraham? C'est clair. Vous voyez comment le problème. Parenthèse dans la parenthèse, mais rapidement. Nous avons une Gemara qui est deux fois dans ta mine, et qui dit qu'on peut comparer toute l'histoire de l'humanité jusqu'à ce que nous allons appeler Yemot HaMashiach à... Mais je ne sais pas où est-ce que c'est. T'inquiète. Donc, c'est l'expression Yemot HaMashiach à la première semaine du commencement qu'on a, vous avez appelé hier Maaseh Bereshit. Jusqu'au sixième jour du commencement, après c'est le premier Shabbat du commencement. Vous connaissez déjà cette analogie que nous avons le Talmud, qui représente, je prépare dans beaucoup de sources, que de même qu'il y a six jours du commencement, puis le Shabbat, de même il y aura 6 000 ans d'histoire, puis le Shabbat, pour l'étape du monde dans laquelle nous nous trouvons, que nous appelons Alamazé, c'est-à-dire, une expression analogue, le Olam qui commence avec Adam Harishon, et qui arrive, aboutit au Olam du Ben Adam, de l'identité du Mashiach. Bien. Or, la Gemara nous dit que cette période de 6 jours du commencement, préfigurative de 6000 ans de l'histoire, se divise en 3 parties. Alpaï Shana Tov, 2000 ans de chaos. Alpaï Shana Torah, 2000 ans de Torah. Alpaï Shana Yemot HaMashiach. C'est la citation exacte. Retenez bien ceci, je traduis, 2000 ans de chaos. Qui aboutit précisément à Abraham. L'achèvement de cette première période de 2000 ans, c'est Abraham. 2000 ans de Torah, ça va depuis Abraham jusqu'à la destruction du premier temple. Et regardez bien que c'est bien le temps de la révélation. C'est-à-dire pendant ces 2000 ans qu'on appelle les 2000 ans de Torah, le monde est apte à recevoir la révélation. Et effectivement, la révélation a été faite, donnée dans ses limites. Et ensuite, 2000 ans, de Yemot HaMashiach, ça veut dire les 2000 ans où l'ère ERE du Mashiach aurait pu commencer. On n'a pas mérité, c'est arrivé en son temps, à la fin des 2000 ans, nous sommes à l'année 1740, c'est à peu près la fin des 2000 ans. Bon, ne sachons pas trop les correspondants du détail, mais concernant ce qui s'est passé hier soir. Mais le Maharal a posé la question suivante. Puisque déjà les 2000 ans de Torah commencent avec Abraham, pourquoi la Torah, en tant que loi, n'a pas été donnée déjà à Abraham? Une des réponses du Maharal qui concerne notre sujet est la suivante. C'est que Abraham, Isaac, Jacob, et jusqu'à le temps de la sortie d'Égypte, c'est encore des individus. Des individus qui ne sont pas n'importe lesquels. Nous avons parlé de hier ou avant-hier, ce n'est pas des hommes comme nous. C'est les engendreurs de cette manière d'être homme qui collectivement s'appelle Israël. Mais c'était encore des individus. Il faut attendre qu'Israël se constitue en nation, c'est-à-dire déjà en instance, qui puisse représenter l'universel humain aux yeux du Créateur, puisque le clan Israël, c'est un universel représentant l'universel de l'humanité. Quand il y a expérience individuelle, c'est le temps de faire, mais il faut que dit la Torah, d'ailleurs, elle demande Israël. Okay? Et il faut donc qu'il s'agisse d'un Israël qui soit déjà une nation pour que la Torah lui soit donnée. C'est une réponse du Maharal. Vous voyez, important, Zéchir, Mitzvah, Israël, beaucoup plus que le Zéchir de la sortie d'Abraham d'Ourkazdine, où tout commence. Nous n'avons pas de date de commémoration quand Abraham est sorti d'Ourkazdine. Okay? Et j'enseigne sur la deuxième réponse. Première réponse, parce que ça c'est une aventure individuelle encore. Et nous retrouvons le mythe du Dieu d'Abraham. Dieu d'Israël, c'est autre chose. Est-ce que c'est suffisamment clair? Ça veut dire qu'on nous aurait raconté l'expérience d'un homme, un individu. Mais si nous savons que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Abraham, mais il est caché, si j'ose dire, que quand il est Dieu d'Israël, quand il est encore Dieu d'Abraham, ça pourrait être l'aventure singulière qui donnerait naissance au mythe du Dieu d'Abraham avec un petit Dieu. Donc c'était suffisamment clair. C'est très important, c'est-à-dire, chaque fois que nous pratiquons une mitzvah, il y a une intention de kavana, que nous disons avant de pratiquer cette mitzvah, que cette mitzvah, nous allons la pratiquer, chacun d'entre nous individu, de somme que l'Israël, au nom de tout Israël. La Torah concerne le clan d'Israël. Elle ne peut être donnée que lorsque le clan d'Israël existe comme clan d'Israël. C'est clair. Le verset est Torah, Siva, l'ami Moshe, Morasha, Kehilat Yaakov. Il faut que Yaakov devienne une Kehila, c'est-à-dire une assemblée, pour que la Torah de Moïse soit donnée. Je referme cette pensée, je vais très rapidement la deuxième réponse du Maharal. Qu'indique le Maharal, c'est que la sortie d'Abraham du Kashdut est irréversible. Elle a réussi. C'est un seuil réalisé. Et c'est pourquoi elle est plus commémorée. On ne commémore que ce qu'il y a encore à actualiser. Est-ce que c'est clair? Et le signe, si vous voulez, du point de vue des récits de la Torah, c'est que Abraham va donner la consigne, ne ramène pas Isaac. Hein. La sortie de Kashdut est irréversible. La Torah souhaite, indique que la sortie de Vite aussi doit être irréversible. N'allez pas passer vos vacances de Pessah cette année à l'île. Et tout le monde va mettre pour des raisons diverses et avariées. Mais, j'ai inversé, il ne faut pas retourner à nos vies. Et alors, mais il y a une grande différence. La sortie des vies, bien que irréversible d'une certaine manière, n'est qu'à le point de départ, encore inachevé, de ce qui s'achèvera à la fin du dernier régime. Et c'est pourquoi elle est commémorée. Mais encore, ça y est, c'est clair. Hein? Il y a encore d'autres raisons que Maharal dit, mais ça suffit pour notre sujet. C'est-à-dire, cette expression dans Zecher, Yitziat Mitzrayim est très importante. L'événement de la sortie d'Égypte est un événement historique. C'est une expérience d'une collectivité. Alors cela fonde en réalité la vérité du Dieu d'Abraham. D'Abraham à la sortie d'Égypte, on savait qu'il y avait un Dieu unique, providence qui dirige l'histoire humaine. On le savait en vérité. À la sortie d'Égypte, on l'a connu en réalité. Ça s'est réalisé. Et la sécurité de la tradition, je dirais donc de nouveau parisienne, qui sont dans le sujet, de la tradition juive, de la tradition biblique, c'est que ça se réfère à l'expérience d'une collectivité et non pas d'une assemblée d'individus. L'expérience étant individuelle, ajoutée un plus un, plus un, plus un, c'est que c'est une congrégation, une confession, une paroisse. Ça n'a rien à voir avec l'Israël de la vie, c'est une nation. Et c'est comme nation et représentant l'universel humain devant le Créateur, alors que plus l'église et plus une synagogue dans le sens d'une église, c'est-à-dire une paroisse confessionnelle ajoutant par addition la somme des expériences individuelles, de religion individuelle, ne peut remplacer cette délégation de la créature devant le Créateur qui doit avoir la limite universelle. Ce n'est pas la sortie de l'église qui, elle, change de degré. Jusque-là, c'était un ensemble d'individus, de familles, préparant leur être collectif. À la sortie de l'église, il s'agit d'une nation. Alors, c'est deux dimensions à la fois. Vous voyez, pourquoi la Torah n'est pas donnée à Abraham? Eh bien, parce qu'Abraham est encore de l'ordre de l'individu, Isaac, Jacob. Maral explique dans son petit danger dans la référence, Adam Arishon a reçu 6 mitzvot, Noah 7, Abraham la 8e, laquelle la mitzvah du 8e jour, la circoncision, Jacob la 9e mitzvah, le Bilan a fait, et seul 10. Alors là, à la sortie de l'Égypte, Israël reçoit la terre, mais en tant que collectif. Et alors, voilà notre discussion, et c'est dans la parole tout de suite. La discussion dans la mission sur laquelle nous allons embrayer, c'est tout. Je fais l'Égypte à Israël, la relation au souvenir de la sortie de l'Égypte, c'est très important. Mais voilà que, pour toutes les raisons que nous avons dites, et d'autres encore, nous savons que c'est un point de départ. Un point de départ irréversible, mais ce n'est qu'un point de départ. Et cela doit mener à la célébration de la Pâque, en souvenir de la sortie de l'Égypte, mais qui sera déjà la célébration de la Pâque de la fin des temps. Petite parenthèse, il y a 2000 ans, le christianisme a prétendu que c'était arrivé. On a célébré le dernier célèbre, c'est le chrétien, et on a célébré la première messe. Vous comprenez ce que je veux dire? Et on a fini avec le cycle hébraïque de référence à la sortie de l'Égypte, et on a stop. Et alors, la question est de savoir dans notre Mishnah, si quand ces temps arriveront, de la délivrance, de la fin des individus, le souvenir de la sortie de l'Égypte gardera la même importance. Voilà le sujet général. Et nous allons embrayer sur ça. Okay. C'est la réponse, d'ailleurs. On a étudié ça une fois. Après, tu demanderas la tienne. Okay. Mm-hmm. Bon, ça vaut la peine de réfléchir, mais je voudrais voir en quoi il y a eu ça après. Ça vaut la peine de réfléchir, mais la réponse traditionnelle à ça est un peu différente. C'est que la première fois que les premières tables de la langue étaient données, eh bien, il a été nécessaire de les griller, parce que ce n'avait pas évidemment inscrit que s'il y avait faute, il pouvait y avoir réparation de la faute. Tandis que dans les deuxièmes tables ont été données, compte tenu du fait que s'il y avait faute, il peut y avoir réparation de la faute. Alors c'est pourquoi les deuxièmes tables ont été reçues avec joie, sin fratera, alors que les premières ont été reçues avec tremblement, matam Torah. Mais sur la question elle-même, nous avons, il me semble, étudié cela aussi avec Michel la dernière fois, en fait, c'est bien, c'est un des fils et les élèves. Parce que la relation entre nous, nous n'avons pas les fils de Moïse, parce que Moïse est notre maître, nous avons les fils de notre père. C'est-à-dire Abraham, Isaac et Abraham, Isaac. Moïse avait des fils, et les pères ont des fils. Bien. En ce sens que les élèves sont appelés fils. Oui. Et d'ailleurs, le fils les sages. Oui, j'allais dire que le fils les sages, puisqu'ils s'arrangent à faire des transferts sur les rats. Mais, comme ça, le rat est ravi. C'est pas. Excuse-moi. Le temps. Ça, c'est un peu dit. Très bien. Alors, tu mérites un dessert. Le Maharal a continué dans cette explication de la manière suivante. Effectivement, nous voyons bien que la Torah a été donnée dans ce temps que j'ai dit de 2000 ans intermédiaires. Or, il y a une Gemara dans son Sanhédrin qui dit trois hommes méritaient qu'à travers eux, la Torah soit donnée. C'est-à-dire, dans son vocabulaire, à être ce maître qu'on attend pour que la Torah soit donnée. C'était Jacob, Moïse et Ezra. Là, on se branche sur ce qu'il nous étudie. Alors, la Gemara a une réponse très, très jolie d'ailleurs. Dit Jacob, au temps de Jacob, la Torah n'a pas été donnée parce que la génération n'a pas mérité. Je vais demander là-dessus. Et puis, au temps de Ezra, la Torah n'a pas été donnée parce qu'elle avait été déjà donnée à Moïse. Vous voyez, c'est-à-dire, la Torah aurait pu être donnée. Déjà à Jacob, et d'une certaine manière elle a été donnée. La Torah aurait été donnée aussi par Ezra, d'une certaine manière elle a été donnée par Ezra, mais elle a été donnée à Moïse. Je crois que j'ai parlé ça il y a un fois d'ailleurs, c'est parce qu'il est à Jérusalem, mais je me rappelle que réellement, cette expression-là est très importante. La génération n'a pas mérité. Quelle génération? S'il s'agit de la génération des Hébreux, il y avait des tradités, Jacob et ses enfants, et ont mérité. C'est donc que cette expression, chaque fois vous la trouvez, la génération n'a pas mérité, c'est la génération de l'humanité entière. C'est-à-dire, au temps de Jacob, Jacob n'a pas pu être ce Moïse, si vous voulez, qu'il aurait pu être, parce que selon Shulchan Aruch, il y a le père, il y a le maître, mais l'idéal, c'est que ce soit le père qui soit le maître. Et là, je pense que c'est clair. Et d'ailleurs, la Kabbalah, en termes de Kabbalah, on dit que la Sphira de Tiferet, ni le bar, c'est Yaakov, ni le garde, c'est Moïse. C'est-à-dire que Jacob est la racine du peuple comme tel, Moïse est la racine de l'âme de ce peuple. C'est la, d'une certaine manière, c'est la même valeur, mais l'un à l'indice âme et l'autre à l'indice race. Et je vais faire une parenthèse. Ça veut dire qu'il y a un mérite absolument exceptionnel à la génération de l'humanité du temps de la sortie de vie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de solidarité de mérite qui fait que. Il y a eu coïncidence. Quand ce temps-là, dans l'histoire universelle, Israël a pu recevoir la Torah, et c'est un petit peu au mérite des hommes de son temps, et pas seulement d'Israël. Ce mérite n'ayant pas eu lieu au temps de Jacob, mais d'une façon quasi clandestine, et ayant eu lieu quand même au temps de Mardoché, au temps de. Bien. Nous allons aborder tout de suite la lecture de la mission que vous avez dans le Talmud. Où il y a une phrase d'introduction que vous n'avez pas dans la Haggadah, je vais l'expliquer très rapidement. Vous voulez demander tout seul ? Pardon ? C'est mérite, c'est d'être prêt à correspondre à la volonté du Créateur lorsqu'il a décidé de créer une créature. Je m'explique. C'est-à-dire que lorsque le Créateur a décidé de créer, lorsque lui, la créature, il a un projet, il a un désir, il a, si j'ose dire, c'est difficile à parler comme ça, mais. Il a entrevu la figure de cet homme qui voulait créer. Il a cette référence. Et puis, il crée la créature en lui disant « Tu es libre d'être comme je voudrais ou autrement. » Après, on réglera les comptes, mais tu es libre. On rendez-vous au jugement de Dieu, mais tu es libre. La première fois qu'une génération humaine choisit par elle-même de préférer être comme Dieu voulait qu'elle soit, il faut un génie de divination prophétique de deviner comment Dieu voulait. Alors, dès que cette génération s'est divinée vers ses modèles, alors il a dit, c'est quoi? C'est ça le mérite. Pardon? J'entends pas. Attendez, ça vous allez étudier avec Michel plus attentivement à la lutte. Parce que nous avons un principe comme le nous avons le droit d'envisager des hypothèses qui n'ont pas existé. Mais nous n'avons pas le droit de tirer dans la réalité les conséquences d'une hypothèse irréelle. En fait, Israël a accepté la terre. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Oui, c'est vrai. Ça, bon, on peut passer sur la différence d'expression. Je veux dire que ce qu'on appelle en étude talmudique un haravina. J'aurais dû penser que. J'ai le droit de penser que ça aurait pu être autrement. Mais si ça a été comme ça a été, tu ne peux pas tirer pour la réalité de ce qui a été des conséquences d'une hypothèse fictive. Alors, c'est le genre d'étude que nous appellerions du temps perdu à envisager des conséquences d'hypothèses qui n'ont pas lieu dans la réalité. Je vais vous donner un petit exemple. Ça, c'est le danger du pile-poule, vous comprenez? Je me souviens que j'étais à une étude avec notre maître à Jérusalem, et un des élèves, il a dit, très sincèrement, enfin, en bonne foi, « Rabbi, peut-être qu'on pourrait dire... » Alors le Rabbi l'a regardé avec un regard tendre, il a dit, écoute, pour savoir ce que peut-être on pourrait dire, je n'ai pas besoin de toi. Mais dis-nous ce qu'il faut dire. Vous voyez le problème? C'est du temps perdu, tu sais. Voilà un exemple qui me vient par association dans la Gemara. Un jour, un farceur est allé voir son rabbin et il a dit, Rabbi, j'ai un enfant qui vient de naître avec deux têtes. Il y a un tel de deux, il faut que je l'aie postulé. Alors le rabbi, c'est ce genre de question. Et alors le rabbi ne s'est pas démonté, il a dit, écoute, est-ce que c'est par hasard un premier-né? Il dit, c'est un premier-né. Il dit, est-ce que tu as payé deux fois le fusion à Ben, après c'est réponse. Vous voyez, ça veut dire, si tu as deux têtes, tu t'en feras deux fois, puisque tu sais, la boulevole est parfaite. Mais ça veut dire, si c'est un cas de la réalité, alors on répond dans la réalité. Si c'est une hypothèse fictive, on ne s'embarrasse pas de préoccupations, de conséquences éventuelles qui ne sont pas de l'ordre de la réalité. Ça, c'est le système. Alors, n'ayez pas de se prendre. Est-ce qu'il y a une autre question? Ok. Mais rapidement, parce que le texte nous attend. Oui. C'est juste qu'il y a effectivement deux fonctions différentes. Vous comprenez, si nous une définition comme peuple d'Israël, c'est-à-dire la congrégation des élèves de Moïse, ce serait une confession religieuse, une école, une église, c'est pas ça Israël. Israël, c'est la nation des fils de père, qui a un maître. Mais c'est très différent. Hein? Je pense que c'est clair. Bon. Alors, revenons à notre Mishnah. Voilà quelle est la première phrase que vous avez dans votre Gemara. Maskirim, Messias, Mitzrayim, Baelot. Je vais ensuite ici qu'on va se borner à traduire tout le concept en sujet, mais ça ne veut pas dire qu'on a utilisé le titre qu'il faudrait avoir pour chaque expression. Il y a un problème dans la halakha de savoir si le soir aussi, on doit dire la troisième paracha du Kriyasma. Je vous l'ai dit simplement pour vous dire quel est l'intérêt du problème, mais on va pas étudier ça. Maskirim, Messias, Mitzrayim, Baelot, ça ne veut pas dire simplement on doit se rappeler la sortie d'Égypte aussi pendant la nuit. C'est un problème de halakha très technique. Est-ce que le Kriyasma du soir, on lit aussi la troisième paracha qui comporte le rappel de la sortie? Pour une raison halakhique, mais je ne voudrais pas perdre de temps pour les digressions, mais je ne voudrais pas être trop rudimentaire. Pour une raison halakhique importante, c'est que dans cette paracha, l'institution des titus, des titus qu'on met dans le talit, et comme il y a écrit, vous le verrez, que la nuit on ne voit pas, donc du point de vue de la halakha, on est halakha des titus que le jour. Du point de vue du travail, on le met même la nuit, mais c'est dans notre nom. Et étant donné que dans cette paracha, ça ne concerne pas un rite du temps de la nuit, est-ce qu'on doit la lire dans le Kriyasma? Finalement, la halakha est qu'on la lit quand même.
En Eretz Israël, on ne la lisait pas, mais on va faire comme ceux de la Galoute qui la lisaient. Pourquoi? Parce que la Galoute est comparée à la mine, donc, mais je referme la parenthèse. C'est-à-dire, pendant tout le temps où c'est le temps de l'exil, même en Eretz Israël, on lisait, et on dit encore, la première parenthèse du Tachna, pour faire comme le Bnei Babel, du la Gemara. Mais revenons à notre problème. Maxime, le Théâtre Israël Balolo, c'est une formule qui institue d'autorité. Bien qu'il y ait un problème, bien qu'il y ait une controverse, cette mission institue d'autorité, on rappellera, on mentionnera la sortie d'Égypte, même le temps de la nuit. Je vais essayer un décodage très rapide du point de vue de notre sujet. Et quel est le problème qu'il y a derrière, son problème de fond? Nous sommes sortis d'Égypte. Nous avons été libérés. Par conséquent, nous avons le droit de dire, après être sortis d'Égypte, que notre Dieu est celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Que nous sommes sortis de la servitude à la liberté, de l'aliénation à la libération, etc. Mais voilà qu'après, nous sommes retournés en Égypte. Alors, est-ce que la sortie d'Égypte a encore son impact? Est-ce qu'elle a encore sa force? Est-ce qu'il y a un sens de nous définir comme étant ceux qui sont sortis d'Égypte alors que nous sommes retournés dans l'Égypte? Vous avez le problème? Et du point de vue du parallèle du vocabulaire, dans le temps du jour, je peux me référer au fait que je suis sorti de la nuit. Mais voilà que je rentre dans la nuit. Est-ce que je peux me référer au fait que je suis sorti de la nuit? Est-ce que je peux être Mathieu, le Théâtre, Israël, Balolo? C'est clair? Il y aurait une difficulté spirituelle, une théorie, une contradiction. Bon, pour les raisons, nous allons établir tout à l'heure, la Torah de Balolo, les rabbins, veulent instituer ça, d'autorité, Mathieu, le Théâtre, Israël, Balolo. Quel est le thème? Général, avant de voir les raisons particulières, la catastrophe est arrivée, le temple est détruit, on retourne en Égypte. Les rabbins ont décidé d'autorité, on continuera à faire comme si nous n'étions pas dans l'exil. On continuera à faire comme si nous sommes les Hébreux sortis de l'exil. Masculin, le Théâtre d'Israël, Ars-Balélo, c'est moi qui ai dit Ars. On mentionnera la sortie de l'exil, même dans l'exil. On continue à être Israël. Vous avez compris le problème. Mais on trouve pas encore de moyens légaux, juridiquement, si vous voulez, légalement, de fonder cela. Tout le monde est d'accord qu'il faut prendre cette décision d'autorité, on ne peut pas la fonder. Et il y a une sorte de sentiment que, en dépit de tout, quoi qu'il en soit, on continue. Et puis oui, mais il faut baser cela. On aura toujours un salut qui est utilisant, comme on dit hébraïsant, un salut utilisant, un certain endroit où c'est écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous comprenez la difficulté. Alors, le rabbin, avec beaucoup d'humour, sert une base dans l'écriture pour une décision historique vitale. La décision, c'est si nous capitulons devant les événements, devant la catastrophe, et Rome a détruit, disons, prenant le problème à ce niveau-là, historique, Rome a redétruit Israël, eh bien, c'est fini, il n'y a plus d'Israël. Alors on est perdu. Non, de l'âme du peuple est sortie cette décision de rabbin, on continue, rendez-vous à la fin de temps. Disons, il est oui. Et alors, voilà, avec beaucoup d'humour, les rabbins dans l'académie vont chercher, et où c'est écrit qu'on continue? C'est vrai qu'ils percevaient cette humour-là. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours un élève de maître qui va venir dire, qui est centimètre, qui va venir dire, et où c'est écrit? Je vous dis, c'est une parenthèse, on en parlait hier encore avec Michel, pour nous rappeler une formule que nous avons probablement déjà entendue, et enfin employée, c'est que faites bien attention à ça. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. C'est parce que c'est vrai que c'est écrit. Vous voyez, où est le critère de qualité? C'est clair? Et je pense que c'est clair. Hein? C'est parce que c'est vrai que ça a été écrit. Donc il faut chercher le critère dans ce qui fait que c'est vrai. Pas dans ce qui fait que c'est écrit. Vous voyez? Bon. Alors, et voilà comment ça s'appelle. Amar Abbé et Hazar de Nazareth. Donc, à propos de cette décision d'autorité, Massiré, Monsieur Asim, Kraïm, Balélos, même la nuit, on va mentionner la sortie de vie. Rabbi Hazar de Nazareth dit Amar Abbé Hazar de Nazareth. Vous suivez le texte? C'est Amar Abbé Hazar de Nazareth. Haré Ami, que ben Kirin Sana. Me voici comme si j'étais âgé de 70 ans. Il était très jeune, pour des raisons qui ne sont pas décidées. Il avait été nommé chef de l'académie, chef du Sanhédrin. Il avait vu la tradition 18 ans. Et puis, si ça vous intéresse, je pouvais vous raconter l'histoire, comment se fait-il que Rabbi Hazar de Nazareth, à l'âge de 18 ans, a été institué chef de l'académie, mais ce n'est pas maîtrisé. La tradition a dit d'ailleurs que l'ami a été nommé. Nous dirions, il se fait de ses raisons. Non, il se fait là-bas, pardon. C'est-à-dire, ils sont poussés 18 bois poils blancs. Pour faire 70 ans. Pour faire comme s'il avait 70 ans. 70 ans, c'est l'âge légal de la sagesse. On peut être précoce, quand tu résumes, mais 70 ans, ça veut dire l'autorité qui est reconnue à l'Académie. Alors voilà, je suis chef d'Académie, je suis comme si j'avais 70 ans, je l'ai déjà pris, c'était un maire de Pierre Pinstraïn d'Alévée. Et je pense encore, il se mérite de fonder ce fait que la sortie de l'Égypte soit dite la mieux. D'accord ? Regardez pour les Israéliens la différence. La donnée, c'est masculine, on mentionne. De quoi il s'occupe, Rabbi Azaria, de quoi il préoccupait, c'était amer. C'est pas la même chose que l'instil. Bon, c'est un autre problème. Gardons le sens global. Ad se verra pas à Benjamin. Jusqu'à ce que Benjamin, un autre rabbin de l'Académie, l'a expliqué de la manière suivante. Quelle est la donnée du problème? Où trouverons-nous le fondement de cette décision indispensable, vitale, que même dans la nuit, on se rappellera qu'on a connu l'Égypte? Eh bien, on ne pouvait pas, on ne savait pas fonder cela en écriture, sur l'écriture, jusqu'à ce que Benjamin a expliqué un verset de la manière suivante. C'est le mal, il est écrit dans le verset « Le Maran qui score, afin que tu mentionnes, et tienne ce que fera Amérique d'Israël, le jour de ta sortie d'Égypte, le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, quand il y aura le cas, tous les jours de ta vie. » Je répète le verset « Le Maran qui score, et tienne ce que fera Amérique d'Israël, quand il y aura le cas. » Afin que tu mentionnes, le jour de, que tu rappelles, le jour de ton sortie de vie, tous les jours de ta vie. Et Benjamin va nous dire, ben, nous avons là la ligne à ce que nous faisons. Parce que l'expression « que yomé chayocha » et l'expression « yomé chayocha » est équivalente. Le jour de ta vie et tous les jours de ta vie, c'est équivalent. Donc le plus, tout est en plus. Voilà l'aspérité auquel on va accrocher le fait que même pendant la nuit, ils sont mentionnés, et pas seulement pendant les jours. Quel est le raisonnement? Yéné Hayecha Hayamim, s'il y avait écrit le jour de ta vie, c'était le jour neuf, Kol Yéné Hayecha, tous les jours, tu pourrais dire aussi les nuits dans les jours. C'est clair comme raisonnement. Il n'y a pas d'autre moyen de lire. Effectivement, physiquement, ça passe pas de la raison. L'humour de la chose, une fois plus, c'est que Benjamin en question, c'est un grand ami profane. On s'est posé la question, pourquoi on ne l'appelle pas Rabbi Benjamin? On avait dit, pourquoi d'ailleurs on ne donne pas son nom, son prénom? Il s'appelle Yohanan. Pourquoi on l'appelle si je pense parce qu'il n'avait pas encore la bar mitzvah. Alors imaginez, depuis le rabbin Ben Azaria, pour un problème aussi important, attend la réponse, on doit dire comme il sera. La Benjamin, il n'avait pas encore la Shmita, si tu veux. Et alors, je vais regarder là-dessus d'ailleurs. Et on le trouve ça, effectivement, ça peut pas vouloir dire quelque chose, apparemment. Okay. Je vais refaire le raisonnement de cette question de deux dominants lectures, s'il l'est. Quelle est la différence qu'il y aurait entre le jour de sa vie et tous les jours de sa vie? Qu'est-ce qu'il y a dans les jours qui ne sont pas les jours, qui sont cependant les jours, c'est les nuits. Mais il n'y a pas d'autre moyen de lire. Alors que Rabbi Ben Azaria cite Yachachamim. Et là, nous avons la raison pour laquelle ils étaient bloqués. Yachachamim est. Utiliser ce verset de toute autre manière. Et c'est pourquoi on ne pouvait pas l'utiliser aussi pour la manière dont nous a dit Benjamin. Comment disait la Chachamim? Yéme Hayecha Ha'olam Azé. Kol Yéme Hayecha Le'Havi Limo Tanaki. Et là encore, très rapidement, parce que la Gemara qui va nous emporter, voilà le raisonnement de la Chachamim. Reprenons le verset, afin que tu mentionnes les souvenirs de ta sortie de vie, tous les jours de ta vie. S'il y avait le jour de ta vie, c'est le jour de l'histoire d'Israël pendant tout le temps de ce monde-ci, c'est-à-dire jusqu'à la fin du dernier exil. Alors la même chose. Puisqu'il y a Kol Yéme Hayecha, même après. Le Havi Limo Tanakhia, c'est pour inclure dans la consigne que donne le verset aussi le jour du Mashiach. Et ça veut dire, et là on va en dire sur la Gemara, que même au temps du Mashiach, il faudra mentionner la sortie de l'Israël. Vrai jour du Mashiach. C'est vrai? C'est-à-dire, la sortie de l'Israël, bien que point de départ, est tellement importante que même lorsqu'elle sera renvoyée à la préhistoire, au temps du Mashiach, on la mentionne. Voilà la donnée de l'autre. Alors maintenant, on embraye sur la Gemara elle-même. On a regardé le Benjamin la Chachamim. Je me souviens bien, c'est comme ça que je connais. Okay? Bon conseil, oui, c'est comme ça. Tania, on enchaîne. Tania, on a regardé le Benjamin la Chachamim. Dans cette compétition de deux lectures, je rappelle Benjamin, Kol Yéme Hayecha, a fini à l'élève. Tous les jours de ta vie, ça devient même le livre. Yachachamim, Tous les Yerushalmi, ça veut dire même au temps de Shem. Quoi? Qu'on rappellera encore la sortie de Jésus, 1840. Alors, Omar Lahim, Benjamin, la Chachamim, vous suivez? C'est le jour de la même chose que j'ai montré. Voilà. À partir de là, la cinquième. Non, là, 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 là. Voilà, ici, c'est marrant. Vous avez 10 mêmes noms, c'est marrant. Vous voyez? C'est. Alors, Kenya, à l'enseigne. Omar Lahim, Benjamin, la Chachamim. Voilà ce qu'avait dit, ça veut dire que Benjamin a la lecture de Chachamim, de l'Occitane. J'ai pris ma fille et le Messias d'Israël, le monde à ma fille. Et est-ce que vraiment tu peux croire qu'on m'entendra la sortie de vie, qu'on a mentionné ma fille, la sortie de vie devant du Messias? Objection, c'est vers un autre gouvernement, c'est bien ça? Oui. Mais n'est-ce pas qu'il est déjà dit que j'en prophète, lequel j'ai venu sur ce 23. N'est-ce pas qu'il a été déjà dit de pauvre de Dieu? Rimei Yamin Baïm, voici des jours viennent. Mais une enseigne, parole de Dieu, parole de Hachem. De l'Eyemru est, et on ne dira plus encore. Vaï Hachem, vivant et Hachem. En serait elle à être venu Israël, mais être Israël, d'après moi, c'est les enfants d'Israël du pays de Juste. Puis, mais on dira, Vaï Hachem, vivant et Hachem. En serait elle à, qui a fait monter, Vaï Jésus, et qui a fait venir, et verra avec Israël, la postérité de la maison d'Israël, mais avec son fauna, du pays du Nord, que Nicolas a raté, en série d'articles, femmes, et de tous les pays où je les avais exilés. Donc, ce verset de Jérémie renvoie au temps de la fin du dernier exil. Et c'était la première donne. C'est ce que nous dit Jérémie. Jérémie prophétise vers la fin du temps du premier temps. Donc, première lecture, eh bien, il prophétise sur la fin du second exil. Mais nous savons que la fin du second exil n'a pas été la fin des exilés. Ça nous renvoie à la fin du troisième exil. C'est bien. Bon. Et alors, je vais nous voir à l'avant. Il arrivera un temps où il ne dira plus référence celui qui nous a fait sortir de lui, mais celui qui nous a fait sortir du pays du Nord et de tous les pays. Bon. Et je pense que là, l'identification et l'actualité est tellement évidente par elle-même que ce n'est pas la peine de se référer de nouveau. Simplement, elle est la précision de la prophétie. Il y a deux cas, le pays du Nord et le pays de tous les autres. Et je crois que c'est important de mettre en évidence le rôle qu'ont joué les Juifs dans la fin de cette présentation. Tout le monde a collaboré, mais c'est centralement du pays du Nord qui a remis le signal. Est-ce que c'est clair, hein? Le pays du Nord étant, si vous voulez, grosso modo, ce qui est au nord de l'Israël, ça commence par la Syrie, Syria, et ça finit par la Russie, Russia. Je vais vous prendre le nom. Alors donc, Benjamin a un verset très fort, vous voyez, tu connaissez sa Bible. Il a un verset très fort, il dit, qu'est-ce que vous nous racontez? On va encore parler de la sortie de vie, au temps de la fin, le ravi de notre nation, au temps du mensuel de la fin des temps, mais Jérémie nous a dit, sachez que lorsque vous serez délivré de l'exil universel, de la galoute, vous reviendrez d'abord du pays du Nord et de tous les pays, alors là, le souvenir de la sortie de vie, eh bien, laissera la place au souvenir de la commémoration de l'exil, de la sortie de l'exil de ce temps. On ne comprend pas ça, c'est mais voilà, compris dans la demeure. C'est tout. Qu'est-ce qu'on a répondu à la personne? Vous êtes en rire. Il vient répondu. La personne, l'eau, c'était à terre ici à Israël et Nicolas. Ça ne veut pas dire qu'on va littéralement arracher la sortie de l'exil de la Wallée, de son endroit. Ça veut dire qu'on va annuler le souvenir de la sortie de l'exil. Et là, mais, c'est toujours sur le mouvement rouillet et car, mais la référence à la délivrance de ce que nous appelons, et je vais expliquer après, sur le mouvement de l'oppression des empires sera l'essentiel du centre de commémoration, si vous voulez. Le Messias d'Israël s'appelle l'eau. Le terme qui prend au prénom jusque-là, et après on continuera. Et la sortie logique sera, c'est un second. C'est un cas, ça fait. Après, on a d'abord ce mot, il faut comprendre comment fonctionne la grammaire. Un cas, c'est l'essentiel, ça fait ce qui vient en plus. Après, comprendre. Un cas, ça fait. Voilà la réponse à la famille. Nous n'avons pas dit qu'on ne parlera plus de la sortie de vie. Mais le foyer de la référence, le gros point de la commémoration de la référence, c'est Dieu se manifestant dans notre présent et on rappellera que c'est lui qui se manifeste dans notre présent. Mais jusque-là, nous n'avions que la certitude du passé de la sortie de l'Église. nous aurons une nouvelle certitude d'un présent qui va l'épiler dans le passé, le passé va s'épiler. C'est clair ? Je veux dire, le moral a très longtemps a prévu que la portée des événements de délivrance de la fin des temps de l'Église est plus grande que celle de la fin. Comme nous sommes contemporains, ça va rien. Vous savez, les contemporains ont pris une vraie de ne pas se rendre compte du tout. Mais si nous n'avions pas ce temps pour nous aider à nous y retrouver, nous serions complètement désorientés. Mais là, comment nous sommes familiarisés avec ce que nous appelons le principe d'autorité, l'autorité d'un texte pareil est énorme pour un juge traditionnel. La demeure a dit tout. Nous savons, ça c'est l'expérience qui nous donne les années et les années de plus, quelle est la compétence de sa famille de la demeure. Donc, dans toute communauté traditionnelle, cette expression, la demeure a dit tout, ça est gratuit. Vous savez ce que je veux dire? C'est clair. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que l'une opinion est un leader. Parce que derrière cette demeure, il y a 46 ans, et ça, il y a une espèce de mémoire de sagesse colossale, d'une présence totale dans toutes les états. L'autorité de Cromwell ici, c'est le choix de l'autorité de tout le reste du pays. Comme il a dit Michel Hier, la demeure, c'est le but de base, j'ai déjà fait plein de centaines de commentaires en cyclope. Mais c'est le point de départ d'une bibliothèque de milliers d'encyclopédies totales d'une même cohérence unique. Ça veut dire que c'est un poids d'autorité colossale. Je tenais à dire ça du point de vue de la maison. Nous ne sommes pas des fabricants, nous sommes des fabricants. Eh bien, c'est un effet de pouvoir. Parce que nous sommes habitués à l'idée que la pure famille de la sortie de vie, l'irruption, l'éclatement de la présence de Dieu dans le monde qui a fait les effets initiatives, les souvenirs de certitude contre ces souvenirs, c'était l'événement exceptionnel. Mais voilà que le Jérémy nous dit, et que sa famille en parle comme des choses qui la soient dans la diffusion de Benjamin, Jérémy nous dit, il aura un temps que ça ne sera plus jamais. Parce que j'ai vu ton initiative, j'aurais fallu le faire. Mais quand il faut de la tête, il a dit qu'il y en aurait tous les autres pays, voilà que. Je n'ai pas compris de ça, je donne une référence quotidienne. On utilise tous les contestations de Moïse dans la sortie de l'Église. C'était le contemporain. Comment ne voyez pas que nous avons monté? Vous voyez ce que je veux dire? C'était le contemporain. Si cette famille qui éclate, et depuis 1000 ans, la ferveur de la Havana de Précard, se référant à ce miracle de miracle de la sortie de l'Église, que les contemporains n'ont pas vu, et ils ont chamaillé. Ils ont fait la démoïe, au lieu de le viser, ils expliquaient qu'ils avaient le canal. Eh bien, c'est pas du gala, quelque chose à découvrir. Le prix, il a été contemporain. C'est le pouvoir à travers. Et puis, ça a été de l'expérience. Alors, si vous voulez, nous avons fait un peu